Lilith, c'est l'égale de Adam, insoumise et diaboliquement mythique.
Martine, la fille parfaite des livres pour enfants.
Et les autres ?
Ben, c'est nous, quoi. C'est vous.
Et on a fait une blague qui disait « Lilith, Martine et les autres sont sur un bateau qui tombe à l'eau. »
Le patriarcat !
Un vendredi sur deux, à 18h, Lilith, Martine et les autres, pirates les autres de Radio Canet, pour une heure de mutinerie féministe.
Radio Canut, 102.2.
Et il est 18h, presque une sur les ondes rebelles de Radio Canu, et vous écoutez votre émission féministe 1 qui a lieu un vendredi sur deux de 18h à 19h, Lilith, Martine et les autres. Ce soir, je suis toute seule dans le studio de Radio Canu, mais vous allez quand même pouvoir entendre les voix de mes camarades qui m'ont envoyé plein de petits montages sonores sur divers sujets que vous allez pouvoir découvrir un à un, et on se lance tout de suite avec un montage que nous a préparé Martha.
L'égalité entre les femmes et les hommes est la grande cause de mon quinquennat.
C'est pourquoi, à nouveau, l'égalité femmes-hommes sera la grande cause du quinquennat.
Depuis 2017, Emmanuel Macron a réagi à plusieurs cas d'accusations de violences sexuelles. Avec à chaque fois le même argument.
Et est-ce que Gérard Depardieu fait honte à la France, comme l'a dit aussi votre ministre de la Culture ?
Moi, je suis un grand admirateur de Gérard Depardieu. C'est un immense acteur, il a servi les plus beaux textes. Lui aussi, c'est un génie de son art. Complet. Il a fait connaître la France, nos grands auteurs, nos grands personnages, dans le monde entier. Et je le dis en tant que président de la République, mais en tant que citoyen, il rend fier la France.
Il était déjà reproché au président de défendre des ministres accusés de violences sexuelles, au nom de la présomption d'innocence. Gérard Darmanin, visé par une plainte pour viol en 2017.
Mais dans le cas de M. Darmanin, vous n'avez pas hésité une seconde avant de nommer...
Mais j'ai eu une discussion avec lui, parce que c'est un responsable politique qui est... intelligent, engagé, qui a été aussi blessé par ses attentes. Donc, il y a aussi une relation de confiance. D'homme à homme, si je puis dire. Le président de la République, un ministre nommé sur la réalité de ses faits. Et leur suite.
Un non-lieu a été prononcé en 2002. La plaignante s'est pourvue en cassation. Nicolas Hulot, visé par des accusations de viol et d'agression sexuelle.
En 2018... J'ai fait comme à chaque fois quand il y a des accusations contre un ministre. Et avec le Premier ministre de l'époque, nous avons vu Nicolas Hulot. Il a nié avec beaucoup de force. Il nous a dit que tout ça n'existait pas.
Il y avait une plainte en 2008, hein, qui était connue en 2018.
Comme vous l'avez noté, cette plainte, elle avait été classée. La justice ne nous a fait connaître aucune procédure en cours. Et nous avons eu un homme manifestement blessé qui a nié. Totalement, et qui a dit tout ça est une calomnie et c'est faux. Et donc, il est resté ministre. Parce que, quel était l'autre choix que nous aurions pu faire ?
Quatre femmes ont témoigné dans un envoyé spécial en novembre 2021. L'enquête pour viol et agression sexuelle sur mineurs le visant a été classée sans suite pour prescription. Damien Abad, visé par des accusations de viol. Une enquête est toujours en cours sur une des plaintes. Damien Abad dément les accusations.
Du ministre, ouais, ça dépend, je sais pas, il a fait quoi. Ah, c'est compliqué, tu vois, tout le monde s'embrouille. Peut-être que le plus simple, c'est de séparer l'homme de ses couilles.
Allô ? Ah, pardon, excusez-moi, je n'appuyais pas sur le bon bouton.
L'affaire Depardieu a agi comme un détonateur. Une trentaine d'associations féministes appelaient à des rassemblements devant les préfectures de France hier, jeudi 11 janvier, contre les violences sexistes et sexuelles. À Lyon, plus d'une centaine de personnes déterminées et en colère se sont retrouvées.
Merci d'avoir bravé un petit peu le froid pour répondre à l'appel du collectif Droits des Femmes 69, qui répond à l'appel nationale de grève féministe. On va prendre une petite prise de parole et ensuite on enchaînera sur différents slogans. Nous sommes féministes. Nous sommes de celles qui reçoivent les paroles des victimes chaque jour. De celles qui ne veulent plus compter les viols, les incestes, les féminicides, les agressions sexuelles et sexistes. De celles qui ne cessent de prôner la transformation de nos politiques publiques pour en finir avec toutes les violences faites aux femmes, aux enfants et aux minorités de genre. Nous dénonçons, nous agissons, nous luttons sans relâche contre ce fléau. Nous écoutons les paroles des victimes. Leurs drames ne sont pas des fictions. Nous sommes solidaires et déterminés face à cette réalité qui touche toutes les femmes, qu'elles soient célèbres ou non. Nous sommes fiers de chacune d'entre nous, de celles qui parlent et de celles qui ne peuvent pas. Dans ce monde qui laisse les victimes dernières de cordées sans justice, nous croyons à la présomption de sincérité.
Faut-il séparer l'homme de l'artiste ? Faut-il séparer l'homme du ministre ? Ouais, ça dépend, je sais pas, il a fait quoi ? Ah, c'est compliqué, tu vois, tout le monde s'embrouille. Peut-être que le plus simple, c'est de séparer l'homme de ses couilles. Le problème, c'est que faire de toutes ces couilles qu'on aura enlevées à leur propriétaire ? Ça fait quand même des milliards de couilles. On pourrait en faire des pendentifs ou de l'engrais pour le jardin. Mais même en étant très inventif, il nous en resterait quand même plein. Peut-être que le plus sage ce serait de créer un permis qui autoriserait le port et l'usage de ces bijoux de famille. Ouais, je sais que not all men, mais tu noteras que l'homme quand même. J'ai pas de solution, mais j'ai un vrai problème. C'est les gens qui violent au KLM. Faut-il séparer l'homme de l'artiste ? Faut-il séparer l'homme du ministre ? Ouais, ça dépend, je sais pas, il a fait quoi ? Ah, c'est compliqué, tu vois, tout le monde s'embrouille. Le plus simple, c'est de séparer l'homme de ses couilles.
Emmanuel Macron a tranché au plus haut sommet de l'État. À l'image de son bilan en la matière, il y a présomption d'innocence. Gérard Depardieu rend fière la France, dénonçant une prétendue chasse à l'homme exercée contre l'acteur dont il est un grand admirateur, dissimulant volontairement le fait qu'il est mis en examen depuis 2020 pour viol et agression sexuelle et occultant les nombreux témoignages existants sur l'attitude sexiste et dangereuse de l'acteur à l'encontre des femmes sur les plateaux de tournage.
Pour ce qui est du président, c'est juste la honte, quoi. C'est juste la honte qu'un homme abuse de son pouvoir, comme Depardieu d'ailleurs. C'est deux hommes qui ont abusé de leur pouvoir et qui se sont entendus, qui se sont téléphonés la veille ou l'avant-veille et qui se sont dit entre abuseurs, non mais ça va, je te couvre un viol, je te couvre des agressions sexuelles, je te couvre des choses graves, quoi. Et que ce président, ce jeune homme, quoi, se permette de balayer d'un revers de main des centaines et des centaines, voire des milliers de femmes que Depardieu a agressées, c'est honteux.
Le président n'a pas eu un mot de solidarité à l'égard des victimes présumées, pas le moindre regard critique sur les propos et agissements répréhensibles relevant de la justice dont tout le monde a été témoin grâce au reportage de complément d'enquête. Ce choix assumé de se tenir du côté d'un auteur de violence venant d'un président de la République, garant des institutions, invalide la parole des plaignantes et entrave leur recours à la justice, anéantit leurs espoirs de reconnaissance du préjudice subi, contrarie leur tentative de reconstruction. Autoproclamé champion de la lutte contre les violences faites aux femmes, le président Macron s'avère être ni plus ni moins un défenseur des agresseurs présumés. Bouh ! Bouh ! Et qui veulent protéger les agresseurs ? Les femmes répondent :
Résistance !
Et on répond quoi ?
Résistance !
Encore une fois ?
Résistance !
Soit en décembre 2021, pendant l'affaire Nicolas Hulot, il discréditait les féministes en les comparant à une société de l'Inquisition, faisant d'elles des bourreaux, là où elles sont en réalité victimes ou défenseurs de ces dernières. relisons tous les témoignages individuels. Chacune d'entre nous sait de quoi il s'agit quand nous disons « MeToo ». La violence patriarcale s'exerce sur nous au quotidien, quel que soit notre âge, notre métier, notre condition sociale. Pour rappel, les mises en cause dans ces affaires sont à 96% des hommes. Les femmes et les filles représentent 86% des victimes de violences sexuelles. Parmi toutes les victimes, 56 sont des mineurs.
Violeurs, tueurs, agresseurs, à ton tour d'avoir peur. Violeurs, tueurs, agresseurs, à ton tour d'avoir peur.
Nous dénonçons de nouveau aujourd'hui ces chasseurs qui nous voient comme leur proie, qui nous pensent à leur disposition, qui supposent que le sexe et la violence se confondent à leur profit et pour leurs prétendus besoins. Nous voulons que cessent rapidement les laissez-faire et les passe-droits, car les agresseurs n'existent pas qu'au cinéma. Ils sont aussi présents dans notre quotidien. Ce quotidien dont la violence est validée et acceptée par le président de la République. Un vieux monde revendiqué par une tribune qui met un J majuscule à justice en méprisant les victimes et en défendant un homme qui pense au clitoris d'une petite fille quand elle fait du cheval. Les signataires savent ne prendre aucun risque. Seuls 1% des plaintes pour viol aboutissent à une condamnation. La défaillance de notre système judiciaire nourrit l'impunité. Les féministes, contemporaines, luttent jour après jour depuis les années 70 contre les violences faites aux femmes, aux minorités de genre, aux enfants. Elles soutiennent celles et ceux qui les subissent dans leur long cheminement vers la reconstruction après avoir vécu l'indicible. Les victimes qui ont fait le choix de recourir à la justice se heurtent bien souvent à un système qui refuse de les entendre, de les comprendre, de les croire et de les reconnaître. Les féministes, depuis #MeToo, la tolérance sociale reculait, des progrès étaient accomplis. Ne laissons pas anéantir ces progrès par des propos irresponsables, graves et sexistes du président de la République qui a porté atteinte aux droits des victimes et aux droits de toutes les femmes et des enfants. Le vieux monde doit disparaître. Ne laissons pas ceux qui ont peur de le perdre défendre ses vestiges pourrissants. Nous continuerons à défendre avec détermination les droits des femmes à disposer de leur corps et de leur droit à une vie digne, débarrassée des violences sexistes et sexuelles, une vie dans laquelle chaque agresseur, quel que soit son statut, ne pourra se retrancher derrière une quelconque immunité. Nous appelons toutes celles et tous ceux qui défendent les droits des femmes, des enfants et des minorités de genre et qui refusent les violences sexistes et sexuelles à des rassemblements comme celui de ce soir devant les préfectures et les palais de justice.
Pour Bérénice Hamidi, professeure en esthétique et politique des arts vivants, ce n'est pas du tout un hasard si le mouvement MeToo a débuté dans le milieu du cinéma. La notoriété et l'accès aux médias des personnes qui ont dit publiquement avoir été victimes ont beaucoup participé à la visibilité du hashtag MeToo. Si les milieux artistiques, et celui du cinéma en particulier, sont surexposés aux violences sexistes et sexuelles, c'est d'abord parce qu'une grande précarité touche les acteurs et actrices, qui sont de facto, lorsqu'ils et elles cherchent à être retenus pour un film, dans un rapport de dominé-dominant avec les producteurs et réalisateurs. On observe aussi dans ces milieux une forte confusion entre les procédures de sélection et des dynamiques de séduction. Les connexions physiques et psychiques sont au cœur du processus de travail. Autre facteur de risque, ces milieux se voient peu comme des mondes du travail. Et donc, les usages habituels du droit du travail peinent à s'appliquer, aussi bien du côté des victimes que des personnes qui commettent ces agressions. Tous ces facteurs, qui se cumulent et font système, expliquent que le cinéma, et plus largement les secteurs professionnels artistiques, sont fortement exposés aux violences sexuelles et qu'elles y sont plus impunies qu'ailleurs. Pour Bérénice Hamidi, il faut rappeler qu'avant tout, ces monstres sacrés sont des hommes de pouvoir qui cumulent un fort capital économique, symbolique, social, culturel et médiatique. Parmi ces personnes qui disent ne pas avoir vu leurs actes, qui les minimisent, voire les défendent, un certain nombre le fait aussi par peur d'être à leur tour blacklisté, exclu, comme les victimes le sont.
Il y a des listes qui circulent dans le métier, donc tout le monde connaît les prédateurs sexuels qui sont dans le métier.
Il y en a qui exercent encore
mais
parmi
totalement.
Cette liste, des noms dans cette liste
absolument.
Qui font encore carrière au
mais
cinéma.
Exactement, exactement. Donc,
veut dire que l'affaire Depardieu, pour vous, c'est simplement symptomatique de ce qui se passe de façon plus systémique.
Systématiquement, le patriarcat met en place des choses, un système qui fait que ni les femmes, il y a une misogynie intégrée qui est immense.
Les artistes auteurs de violences bénéficient également de l'empathie, cette empathie pour les hommes qui agressent, que la philosophe australienne Kate Mann a bien analysée. Dans nos sociétés encore largement sexistes, car structurées par des valeurs patriarcales, on autorise les hommes, ou plutôt les hommes qui honorent le mandat masculin consistant à conquérir et dominer socialement, à exercer des formes de violence à l'égard des personnes et groupes en position dominée, en particulier les femmes. Cette autorisation sociale, le plus souvent inconsciente, passe par un refus collectif de croire qu'ils puissent commettre des violences et, quand ce n'est plus possible, par une tendance à euphémiser les actes et à les excuser au motif qu'ils seraient victimes de leur propre violence. Ces hommes captent donc l'empathie sociale dont les victimes sont pour leur part privées. Mais si le cinéma est particulièrement touché par ce phénomène, c'est aussi parce que les acteurs bénéficient d'une empathie spécifique qui vient renforcer cette culture de l'excuse. Elle tient au fait que règne encore l'idée que la création artistique serait le fruit d'une connexion aux forces obscures de l'âme humaine, que les artistes auraient besoin de souffrance et de violence pour créer, ce qui vient redoubler une croyance encore prédominante dans notre société, encore imbibée par la culture du viol, qui voudrait que l'amour fasse mal et que le sexe et le désir soient forcément partie liée avec la violence et la mort. Exemple frappant, les ventes du parfum Sauvage ont augmenté depuis les accusations de violence conjugale à l'encontre de son égérie Johnny Depp. Les images du poète maudit, du bad boy, sont encore trop souvent glamourisées et représentées comme des figures d'hommes désirables. En France, il existe enfin une immunité spécifique liée au culte de ces figures de l'artiste maudit et du monstre sacré. L'idée est la même. Il faut transgresser pour créer, mais s'ajoute la croyance que les lois ordinaires qui valent pour le commun des mortels ne sauraient s'appliquer aux grands hommes, ces hommes extraordinaires. Cette idée s'est exprimée dans l'affaire Depardieu à travers certains témoignages, avec la formule rapportée par l'article de Mediapart, « Allez, ça va, c'est Gérard », ou dans le discours du président de la République, « Depardieu, c'est Cyrano, c'est la fierté française ». L'échelle des valeurs est claire. La vie des femmes ne vaut rien face au talent d'un génie. Mais il y a autre chose aussi dans ce discours, presque une forme de transfiguration de ces personnes réelles en personnages hors de la réalité. Et selon cette logique, ces êtres de fiction ne sauraient être soumis au système judiciaire qui vaut pour les personnes réelles. C'est tout ce système-là, dans le cinéma mais partout dans la société, qu'on combat et qu'on veut abattre.
C'est pas des femmes hystériques qui parlent ou celles qui n'osent pas parler. C'est pas ça qui se passe. Le monde est en train de se recomposer avec des femmes qui osent dire stop ou qui osent dire je veux une vie égale à toi. C'est bien ça. On devrait être heureux de ça. Et le président, il devrait fermer sa gueule. Il devrait fermer sa gueule quand un monde nouveau se prépare. Il devrait accompagner ce mouvement-là.
Oui, franchement, vos gueules. Moi, j'ai envie qu'on passe du temps sans vous, entre nous, pour se donner de la force, et du temps contre vous, pour que cette impunité cesse.
Je fus la boniche de mon mari. Service sexuel, service domestique.
physique, temps de travail non rémunéré, exploitation morale et normale dans une société patriarcale. Service sexuel, service domestique, temps de travail non rémunéré, exploitation morale et normale dans une société patriarcale. Aïe 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 aïe.
Il est 18h20 sur les ondes rebelles de Radio Canu. Vous êtes toujours à l'écoute de Lilith, Martine et les autres. Et sans plus tarder, on va enchaîner avec une petite critique cinéma. Et comme Lilith est toujours première sur l'actu, ou presque, puisque je vais vous proposer ce soir une critique du film Barbie, réalisé par Greta Gerwig, sorti cet été et qui a su ravir les foules et nourrir d'innombrables trends sur les réseaux sociaux. Si vous ne l'avez pas vu et que vous comptiez le faire un jour sans être spoilé, je m'excuse d'avance et vous conseille de lancer votre playlist préférée pour le prochain quart d'heure. Sinon, je me lance.
Hé, hey Barbie. Je peux venir chez toi ce soir?
Bien sûr. J'ai rien prévu de particulier, juste une énorme fête avec toutes les Barbies, une chorégraphie et une chanson qui va avec. T'as qu'à passer.
Trop cool.
C'est une journée de rêve.
Oh oui, c'est une journée de rêve, comme hier, comme demain, comme toutes les journées à partir de maintenant et pour toujours. Ça vous arrive de penser à la mort? When my heart breaks. Il s'est passé des choses qui ont peut-être un lien. When my world shakes. Douche à l'eau froide. Oh. Je suis tombée du toit. Ah. Et mes talons touchent le sol maintenant.
Pied plat. Yeah.
Ah. C'est quoi la solution? Il faut que tu ailles dans le vrai monde.
Tu peux reprendre ta vie habituelle ou alors connaître la vérité sur l'univers. Le choix t'appartient.
Le premier, le talon haut.
Non, t'as envie de savoir, ok? Recommence.
Je viens avec toi.
D'accord. C'est ça, le vrai monde. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ces hommes me regardent?
Ils me regardent, moi aussi.
Barbie dans le vrai monde? C'est impossible.
Si jamais ça fuit, il risque de se produire des choses très bizarres dans notre monde. Ce sera... catastrophique!
On n'a pas joué à la Barbie depuis qu'on a genre 5 ans.
Oh!
Pas de répit tant que cette poupée ne sera pas dans une boîte.
Les humains n'ont qu'une seule fin.
Attrapez cette Barbie.
Les idées, elles.
L'avantage de voir les films des mois après leur sortie, c'est probablement, outre le fait qu'on n'a pas à payer lorsqu'on s'est fouillé subtilement sur le web, regarder Barbie streaming VOSTFR, non. L'avantage, c'est qu'on a déjà à se mettre sous la dent les critiques rédigées par les copines. Et j'ai particulièrement envie de vous parler et de vous lire un peu l'excellente critique écrite par Occitane Lacurie pour la revue indépendante de ciné Débordement. Mais avant tout, spoiler alerte, un bref recap. C'est quoi ce film Barbie? Alors environ 150 millions de dollars, ce qui est dans la moyenne du coût des blockbusters américains. Et c'est le prix du film, réalisé par Greta Gerwig, et fruit d'un partenariat entre Mattel, société qui produit les Barbie, et plusieurs sociétés de production cinématographique. Avec Margot Robbie et Ryan Gosling en tête d'affiche, Barbie, c'est l'histoire d'une Barbie qui vit sa meilleure vie dans le matriarcat de Barbieland, avec ses copines Barbie présidente, Barbie journaliste, Barbie chirurgienne, Barbie chanteuse, Barbie tout ce que vous voulez, et qui, un beau jour, mal fonctionne. Elle entame alors un voyage dans le monde des humains en menant avec elle dans sa quête son Ken. Je vous la fais rapide, elle déchante en comprenant que le vrai monde n'est pas tout rose. Ken, lui, découvre le patriarcat et, convaincu, décide de l'importer à Barbieland. Barbie se voit alors contrainte de faire la révolution féministe à Barbieland pour empêcher les Ken de prendre le pouvoir et d'imposer le sexisme. Jusque-là, le scénario, il faut l'avouer, est claqué au sol. Heureusement pour le film, la réelle, les blagues en font un objet visuel drôle et distrayant à regarder, mais quid du discours que porte le film? Et surtout, quid de la question qui nous anime? Barbie, c'est vraiment un film féministe, en tout cas le film féministe qu'on a voulu nous faire gober? Eh bien non, évidemment. Pour reprendre les mots d'Occitane Lacurie dans sa critique du film, Barbie, c'est un peu le gaslighting collectif le plus onéreux de l'histoire moderne, qui cherche à nous convaincre tous que nous n'avions pas compris que Barbie n'était autre depuis le début que le bras armé du féminisme. Féminisme bien sûr blanc bourgeois, bien libéral, qui prendrait forme dans les multiples carrières d'une rayonnante girl boss protéiforme. Non, évidemment, la couleuvre semble un peu difficile à avaler. Et si féminisme il y a dans les poupées aux longues jambes, comme le précise Occitane Lacurie, c'est probablement dans une dimension que Mattel évacue très rapidement dans le film, à savoir la vie sexuelle de Barbie. Et oui, si dans le film la blague c'est bien que Barbie dit à Ken que toutes les soirées sont de chastes soirées entre filles pour toujours. Évidemment, vous pouvez oublier le lesbianisme ici, et que Barbie n'a pas de vagin et Ken pas de pénis. Dans la réalité, Barbie, c'est aussi, je cite, « les amours que prêtent les enfants à ces femmes miniatures et par lesquelles, comme l'écrit Occitane Lacurie, du coup, naît une première réflexion sur leur propre corps, leurs désirs, les tabous et sans doute toute une série d'étapes de leur développement psychique. Mais ça, Mattel ne veut évidemment pas en entendre parler.
Je pensais rester chez toi cette nuit.
Pourquoi ?
Parce qu'on est copains-copines.
Et on fera quoi ?
Bah en fait, je sais pas trop.
Parlons un peu du scénario maintenant et de la morale de l'histoire, parce que passé l'intro du film et le lancement de l'intrigue, j'ai rapidement perso commencé à grincer sérieusement des dents. Je cite l'article d'Occitane Lacurie. De la frustration sexuelle de Ken naît sa fascination pour le patriarcat qu'il découvre incidemment dans le monde des humains et qu'il décide d'importer à Barbieland. Autrement dit, l'utopie matriarcale nourrissait en son sein sa propre perte, en transformant lentement ses mâles en dangereux incels en puissance. C'est bien ce que raconte le film, et quand Barbie empêche un patriarcat crasse à la fin de l'histoire de s'imposer à Barbieland, la première chose qu'elle fait, c'est de s'excuser auprès de Ken, parce que le matriarcat de Barbieland, c'est bien du sexisme anti-homme. Les Ken n'existaient qu'à travers les yeux des Barbie et n'étaient pas respectés. Étrange morale, vous en conviendrez, qui ressemble beaucoup au discours anti-féministe qu'on connaît sur les féminazis, tout ça, la volonté de dominer et d'oppresser les hommes qui seraient en puissance dans les discours féministes. Et je ne reviens même pas sur la frustration sexuelle de Ken qui le pousse à haïr les Barbie. Pour citer à nouveau Occitane Lacurie, laissons de côté l'étrange parallélisme qui rapproche cette dimension du film de l'accusation fréquemment adressée par les réactionnaires aux néo-féministes de n'être que des aventures d'un néo-puritanisme.
Je sais pas qui je suis sans toi.
Tu es Ken.
Mais c'est Barbie et Ken. Il n'y a pas juste Ken.
Doesn't seem to matter what I do. I'm always number two. No one knows how hard I tried. I have feelings that I can't explain.
Je vais terminer ce récap de Barbie en vous faisant la lecture du passage de la critique d'Occitane Lacurie sur la question, cette fois, du pinkwashing de Mattel qui se joue finalement à travers ce film également. Il faut interroger ce que produit la Barbie de Greta Gerwig. Ce film, largement financé par Mattel, ce qui constitue déjà en soi une limite à son potentiel subversif, se veut à la fois historiographique et normatif. Historiographique, car il prétend à lui seul réorienter tout ce que la culture populaire associe à la figure de Barbie, un corps inégalable, svelte, glabre, et pour la grande majorité des poupées en circulation, blanc et blond, pour en faire un nouveau genre d'icône. Normatif, car ce faisant, le film et l'entreprise entendent figer un usage de la reine des poupées fondé sur un plan marketing s'adressant aux millennials qui s'apprêtent à procréer et potentiellement à bientôt offrir leur première Barbie à leur enfant. Car si le film laisse penser que Barbie en expédition dans le monde des humains retrouvera bientôt l'adolescente en crise dont elle a perdu des suffrages, c'est en réalité la mère de celle-ci qui devient la protagoniste de l'intrigue et qui finit par bouter le patriarcat hors de Barbieland. Avec Barbie, le capital fait la démonstration de son pouvoir, médié par celui du cinéma, réécrire son histoire afin de surmonter la révolution féministe qui a marqué ma génération. Le prix n'est pas si élevé après tout, une poignée de milliards bien vite rentabilisée, un discours convenu sur l'émancipation individuelle et quelques concessions comiques parmi lesquelles la représentation farcesque des dirigeants de Mattel ou les plaisanteries sur la fraude fiscale à laquelle Ruth Handler, la créatrice de la poupée Barbie, s'adonnait gaiement. Alors voilà, face à cet objet résolument post-moderne, nous, féministes, sommes contraintes de nous positionner. Il faut reconnaître que ce film a d'inédit, d'authentiquement drôle et de bien plus malin que les cas de pinkwashing grossier auxquels nous étions exposés jusque-là et que nous nous sentions parfois obligés de complimenter du bout des lèvres. Le parfum douceâtre de victoire culturelle qui flotte au-dessus autour des files d'attente parsemées de roses qui se pressaient cet été aux abords des cinémas fait naître un plaisir qu'il ne faut sans doute pas complètement bouder. Pour autant, ce summum de féminisme libéral incorporé avec panache par le capitalisme tardif ne manque pas d'inquiéter. Quels nouveaux avatars du féminisme blanc bourgeois sortiront de la Barbie Dreamhouse au moment du backlash pour taxer d'autres féministes plus radicales, plus intersectionnelles, de tout mélanger lorsque ces dernières rappelleront légitimement les liens qui unissent patriarcat et capitalisme ? C'est tout pour moi. Je vous laisserai les références de l'article d'Occitane Lacurie sur le site où on podcastera cette émission. Et je vous laisse avec la chanson « Not Your Barbie Girl » de Ava Max.
Your Barbie girl, I'm living in my own world. I am plastic, call me classic. You can't touch me there, you can't touch my body unless I say so. Ain't your Barbie, no. Pull up to that dream house, got gate heels now. How much do you like this? Welcome to my bedroom hallway, go down. Sis got permission. Day. Buy myself diamonds and the champagne. Order 5 courses and chocolate cake. Uh-huh. Acting like a can when I want a man. Acting like I care but I don't. And I do my own thing and yeah, watch me dance. Uh-huh. Not your Barbie girl. I'm living in my own. I'm reminding you often something that you just can't get. Words don't tempt me, trying to bring me in this year's I ain't trying to trip. No, I can take myself on a dinner date. Buy myself diamonds and the champagne. Order 5 courses then chocolate cake. Uh-huh. Acting like a can when I want a man. Acting like I care but I don't end. I do my own thing and yeah, watch me dance.
Il est déjà 18h33 sur Radio Canu, c'est toujours Lilith, Martine et les autres. Et on va enchaîner avec un témoignage d'une Lilith, une Lilith qui est en ce moment même outre-Atlantique.
Je suis Lilith au Chili, mon pays d'origine. Ou Latin-Amérique. Ça se trouve au sud, à côté de l'Argentine, et vraiment bien au sud de toute la Terre. J'y profite pour cette visite pour jouer au foot avec mes potes. C'est mon loisir préféré. Et là-bas, j'ai trouvé un collectif que j'ai trouvé assez intéressant et que j'avais envie de vous présenter. En tout cas, personnellement, ça me rappelle un peu Les deux associations où j'ai participé, les Lyonnais et les Députés à Lyon, des associations de football féministes et militants. Bon, si vous êtes intéressé, il y a des autres émissions intérieures où on parle de ça. Mais aussi parce que je me suis dit, c'est une manière, ce qui c'est la différence et comment ils vont construire cette collective des foot avec un regard politique carrément. Et comment ça s'est vu à Latin-Amérique, spécifiquement au Chili, et voir s'il y avait des similitudes ou différences entre les deux noms. Donc maintenant, je vous présente les collectifs Jugada Colectiva, c'est-à-dire un jeu collectif. Et je vous lis la définition de ce groupe. Nous sommes Jugada Colectiva, une groupe en féminin, en espagnol est grupa, féministe, diverse et dissidente. On est amante du ballon et des projets collectifs. On est organisé pour visibiliser nos luttes et pour promouvoir la participation sociale à travers du sport. Quelles sont les motivations de ce groupe dans ces mots? Bon, c'est l'impulse de créer les jugadas collectivas vient d'une nécessité d'avoir des espaces safe avec des valeurs féministes qui nous permettent de pratiquer cet sport historiquement masculinisé et les faire avec nos côtes qu'on a construit à partir de Kier et de l'amour de manière pas romantique. Les collectifs nés cette année et ils sont des entraînements tous les mardis les soirs dans un terrain qui fait partie d'un collège, mais qui, grâce à une politique publique, a passé à être des demandes publiques, sauf bien sûr une autorisation et tout. Mais ça marche de ces manières au Chili, où il n'y a pas énormément de terrains qui appartenaient aux maris, comme ici. Dans ces mots, elle construit chaque jour un espace d'organisation safe et qui va accueillir les gens pour apprendre ensemble à jouer au foot avec du respect et surtout sans expression des violences. Aussi, dans ces mots, on va unir nos savoirs pour visibiliser l'existence de le football féministe, c'est-à-dire vraiment une définition différente de football, les renforcer par des actions qui visent à générer des réseaux, à créer des réseaux et promouvoir les luttes des femmes et dissidences, c'est-à-dire des corps dissidentes ou des personnes cuir, comme on dirait en français, et dans un monde patriarcal. En termes d'organisation, ils marchent avec un système d'assemblée où ils abordent des différents sujets, mais ce qui était assez exceptionnel dans cette table des matières, il y a les sujets plutôt pratiques, mais aussi ils ont décidé d'inclure les thématiques émotionnelles dans l'équipe parce qu'ils considèrent que cet espace des assemblées, c'est des moments intimes où il y a beaucoup la tendresse, l'écoute et la concrétude pour réaliser les projets qu'ils ont. Ce collectif, c'est assez jeune, il y a même pas un an d'existence. C'est pendant l'énergie qu'ils ont mis sur le projet a fait qu'ils ont déjà participé à plein d'événements où ils ont fait des activités qui sortent aussi un peu de l'aspect purement sportif. C'est-à-dire, par exemple, ils ont planté un arbre pour la journée mondiale de l'environnement en juin. C'était un arbre natif qui pénètre et croire mieux, et qui c'était aussi une métaphore, une manière de dire, et qu'ils sont aussi impliqués dans des autres aspects de la vie, comme collectif. Et aussi en décembre, pour la journée mondiale contre la lutte et l'action contre les VIH. Dans cette exposition des différents collectifs, ils ont pu présenter le collectif à des autres personnes, mais aussi c'était un des luttes avec elles sont engagées, c'est-à-dire pour l'égalité et pour les personnes LGBT. Donc je pense que c'est une manière intéressante de penser aussi la politique féministe en collectif à partir d'un espace qui est à la base en rapport au foot, mais qui va au-delà de ça. D'ailleurs, je vous laisse avec certains témoignages des personnes qui participent au collectif Jugada Collective et qui m'ont parlé un peu sur qu'est-ce que ça veut dire pour eux, cette collectif et les objectifs qu'ils ont.
Bueno, la pregunta es cómo uno llega al fútbol.
Alors, la question, c'est comment est-ce qu'on arrive au football? J'ai l'impression que c'est plutôt le football qui arrive, qui nous arrive, je dirais. Parce qu'il est présent partout, culturellement, dehors, à la télé, partout et dans la rue.
Específicamente, el fútbol apareció en mi vida en la calle.
Et justement, le foot, à moi, il m'est venu par la rue, enfin dans la rue. Avec un groupe d'amis et à partir de là j'ai commencé.
Et desde pequeña nunca
fui depuis petite je suis jamais allée dans un club
ou
avec une idée de professionnalisation.
No estaba bien instaurado, bueno todavía no, pero
parce que à ce moment-là c'était pas très développé l'idée. Toujours pas.
De manera profesional.
Aujourd'hui, toujours pas trop, mais à l'époque, encore moins.
Si deporte,
cette idée que les femmes puissent avoir un avenir professionnel dans le football.
Et voilà, de que le football se haya visto ou todavía se esté viendo como.
Par rapport au fait que le foot soit vu comme un sport d'homme, oui, ça a été un thème quand j'étais petite.
Pour le mismo, non.
D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je ne participais pas trop aux activités de football au collège. En vérité, j'avais ça en tête. C'était pas vraiment pensé pour les filles. On était déjà un peu isolés de manière sociale et culturelle.
Et no quería hacerle caso, pues, ¿cachai? No quería estar inserta.
J'avais pas envie d'avoir ça en plus, j'avais pas envie d'être dans un environnement avec que des hommes. Donc je m'éloignais un peu. Et en plus de ça, à ce moment-là, je faisais un autre sport, qui était donc le basket. Donc je considérais pas qu'il me manquait un espace pour faire du sport. Et maintenant, oui, depuis quelques années, j'ai changé de paradigme et que si le foot pouvait peut-être un sport pour les femmes et les personnes dites dissidentes, et que nous-mêmes, nous pouvions créer cet espace pour que cet espace soit accueillant et sûr.
Bueno, llegué a jugar colectiva creándolo.
Alors, j'ai commencé à jouer en collectif en créant des groupes avec des copines
que estábamos conociendo.
Et aussi avec des personnes d'autres femmes et des personnes dissidentes.
Saliéndome de otro equipo.
Donc, écoutez, moi, je suis partie d'une autre équipe en me disant ok, je vais créer un autre endroit. Un autre endroit où on peut se sentir dans lequel on peut se sentir appartenir. Donc c'est là que j'ai commencé.
Et para mí significa como un espacio bastante íntimo.
Pour moi, ça signifie un espace relativement intime.
Seguro.
Et aussi sûr, safe. Et j'y passe vraiment des très bons moments. Bien sûr, c'est un endroit avec une dimension politique et que parfois le politique peut créer un certain mal-être.
Et te hace repensar y pensar y.
Donc la politique parfois ça peut créer donc un mal-être et des idées différentes, des idées incongrues, etc. Mais bon, c'est la vie. Mais ça fait aussi réfléchir et repenser, donc ça j'aime bien. Et à chaque fois que je vais jouer, je passe un très bon moment avec mes compagnonnes et mes compagnons et du coup je passe un très bon moment.
Et le quotidien, clairement, me hace comment travailler pour ça, pour changer también.
Et dans le quotidien, ça me fait aussi beaucoup travailler sur ça, de changer aussi ce paradigme, mais intérieurement, de que le foot, ce serait un sport uniquement pour les hommes, et que nous-mêmes aussi, on peut créer pour nous-mêmes et par nous-mêmes des espaces où on se sent confortable et en sécurité.
Bueno, jugada colectiva aporta en contra de la lucha de la desigualdad en relación a la
jugada colectiva, ça apporte de la lutte contre les inégalités pour des personnes LGBTQI+. Parce que nous apportons un espace pour les femmes et les personnes dissidentes. Pour que les personnes qui n'ont pas d'espace pour ça l'aient finalement. Qu'elles trouvent un lieu d'appartenance, de confiance, qu'elles puissent avoir un espace où s'ouvrir à leur émotionnalité, intimité, si c'est quelque chose qu'elles cherchent et qu'elles souhaitent, parce que c'est aussi un espace pour ça.
Et bueno, comment me gustaría que fuese en el futuro. Un espacio bastante más grande.
Comment est-ce que j'aimerais que ce soit dans le futur?
Organisado y estructurado por más personas, ¿cierto? Porque ahora somos hartas, pero
organisé claro, et structuré par plus de rotando, personnes, ¿cierto? Encore.
En algún momento parce varias personas.
Déjà beaucoup, mais sûrement qu'à un moment donné, ça va tourner un peu.
Otros roles dentro del espacio.
Certaines personnes, à un moment donné, on va devoir occuper un autre rôle dans cet espace-là.
Para que puedan
ayudar. D'autres personnes qui viennent intégrer le collectif pour que ça puisse grossir, l'agrandir et lui donner plus de valeur.
Entre comillas, las que
iniciamos esto, chaque personne peut apporter, enfin, a quelque chose à apporter et son petit grain de sable. Et pour qu'on ne reste pas seulement entre guillemets les personnes qui ont créé l'espace, pour que tout le monde puisse aussi s'approprier l'espace,
que ce ne
soit pas juste jouer entre nous, mais aussi que ça prenne de l'ampleur, parce que sûrement qu'en dehors, il y a plein de personnes qui veulent la même chose que nous, et que ces personnes qui soient de l'extérieur puissent aussi s'approprier l'endroit et qu'on puisse les écouter et qu'elles fassent partie aussi de cet espace.
We'll be right back.
18h49 et quelques secondes sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. Vous êtes toujours à l'écoute de Lilith Martin et les autres et on va bientôt terminer cette émission. Vous venez d'entendre une interview qui a été menée au Chili par notre camarade qui s'y trouve en ce moment et dont vous pourrez entendre une deuxième partie, un deuxième entretien dans 2 semaines dans notre prochaine émission. C'est parti pour la dernière petite chronique qu'on vous propose ce soir avant de laisser la place au Canu Info.
Qu'est-ce qu'être femme ?
Qu'est-ce qu'être femme ? Être femme, c'est ce que je suis. J'avais toute une liste de questions comme ça.
Non.
Parce que je trouve pas que ça soit spécialement intelligent comme...
Que bon Dieu a fait, je suis désolé.
Des caprices, déjà, c'est les énervements à une période, on ne sait plus si...
Le bonheur des femmes dépend des hommes.
Alors, F-E-2-M-E se prononce femme. Alors, il y a souvent un élève qui dit... Il n'y a pas de A dans femme.
En 1680, il donne cette définition de la femme, créature raisonnable faite de la main de Dieu pour tenir compagnie à l'homme.
Alors, l'instituteur répond, oui, c'est comme ça, le E de femme se prononce A. Et l'élève se dit, je sens qu'avec les femmes, ça va être compliqué.
La femme est donnée à l'homme pour qu'elle fasse des enfants.
Mon œil.
C'est Napoléon qui l'a écrit.
Mais Madame de Staël a aussi écrit que Napoléon était un con.
C'est quoi être une femme ? Bienvenue dans la définition impossible, celle qui rend fou les masculins, les transphobes et les profs de SVT réac. La question à laquelle on serait bien en peine de répondre autrement qu'en faisant une analyse de ce qu'est le genre et de ce que... Et de ce que cette construction sociale implique. C'est quoi une femme ? C'est quoi un homme ? Même Vita et Slimane s'accordent sur le fait que le genre, eh ben, ça s'apprend.
C'est fort une femme, quand on nous blesse et nous accable, on ne se plaint pas. Quand on nous laisse, que tout le monde part, on reste là. Avec les restes, on reconstruit, on est comme ça. C'est ça une femme.
Et oui.
C'est quoi un homme ?
C'est quoi une femme ?
On fait semblant, on joue le jeu qu'on nous apprend.
Si t'es un homme,
si t'es une femme. C'est quoi une femme quand on l'empêche?
Allez, 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 on passe, je n'ai pas pu m'en empêcher. Coupons l'herbe sous le pied aux adeptes de la théorie du genre, d'abord. Cette théorie fascisante qui voudrait qu'il existe une idéologie visant à créer ou entretenir une confusion entre les identités sexuelles. Être femme, ça n'a jamais été une question de biologie. S'il existe des différences biologiques entre les êtres humains, on serait en effet bien en peine de les classer dans la binarité homme-femme. Et d'ailleurs, le genre précède le sexe. Historiquement. Et la dichotomie féminin-masculin a été construite historiquement, encore une fois, de manière relativement récente. Et mais donc, c'est quoi être une femme ? Probablement tout un tas de trucs différents qui divergent selon les personnes. Il ne serait pas trop compliqué a priori de dresser le portrait de la femme, en énumérant tous les stéréotypes de genre qu'on connaît pour dessiner les contours de la catégorie sociale à travers les dictats qu'on lui impose. Je vous épargne la délicatesse, prendre soin de soi, être mère, être belle, être fragile, blablabla. Dans les faits, cette définition-là, aucune femme ne s'y sent parfaitement à son aise. Être une femme, c'est se sentir femme. Je précise pour les femmes, parce que dans une perspective matérialiste, être une femme, c'est appartenir à un groupe social, une classe, pourrait-on dire. Mais je m'égare. Si être une femme, c'est se sentir femme, c'est quoi se sentir femme ? Pour apprendre ce que c'est qu'une femme, on nage dans tout un tas de représentations de femmes qui nous entourent, jusqu'aux femmes qu'on lit, que l'on voit au cinéma, à la télé, que l'on écoute, qu'on nous désigne en disant « c'est une femme ». Et toutes nous proposent leur version de la féminité dont on s'inspire parfois, ou alors pas du tout. Hier, j'ai lancé, j'en viens à ce que j'avais vraiment envie de faire en fait, j'ai lancé un disque de Patricia Cass, vous me sentez venir. Et je me suis dit, tiens, écoutons la femme que c'est juste à partir de ses chansons, hein, la femme qu'on entend dans ses textes. Je suis pas biographe et honnêtement, je ne prétends pas l'être.
«
Y'en a qui lèvent des gosses au fond d'un HLM. Y'en a qui roulent leur bosse du Brésil en Ukraine. Y'en a qui font la noce du côté dans le lait. Y'en a même qui militent dans la rue avec tracts et banderoles. Y'en a qui en peuvent plus de jouer les sex symboles. Y'en a qui vendent l'amour au fond de leur bagnole. Mademoiselle chante le bleu.
Avec ses cheveux courts, sa voix grave et suave, Patricia Cass chante dans Mademoiselle chante le blues les femmes qu'elle voit autour d'elle en 1988. Ça fait le bruit d'un vinyle un peu poussiéreux, elle se moque un petit peu, mais dit la diversité des femmes, en tout cas pour elle. Quant à Mademoiselle qui chante le blues, elle se tient un peu au-dessus de la foule de ses congénères féminines, parce qu'elle boit du rouge.
Les bottes comme on lèche les vitrines. Et la même qui font du cinéma qu'on appelle Marilyn. Mais Marilyn Dubois sera jamais normative. Faut pas croire que le talent c'est tout ce qu'on s'imagine. Mademoiselle chante le blues. Soyez pas trop jalouse. Mademoiselle boit du rouge. Mademoiselle.
Patricia Cass, c'est aussi la basic hétérosexuelle, celle qui chante certes avec ironie les louanges du macho, mais qui craque pour lui. Elle aime les hommes, les vrais, et être une femme à leurs yeux. C'est pas la plus féministe de la plus féministe de tes copines. Sa place de femme dans l'hétéropatriarcat a l'air de lui convenir plutôt bien.
Il triche avec ma vie. Il dit des mots menteurs. Et moi je crois tout ce qu'il dit.
Donc elle aime les mythos.
Les chansons qu'il me chante. Les rêves qu'il fait pour deux. C'est comme les bonbons mentent. Ça fait du bien quand il pleut. Je me raconte des histoires.
Après faut reconnaître qu'elle est lucide hein.
C'est pas vrai ces histoires. Mais moi j'y crois.
Allez, allez, on va pas se mentir, Patricia Cass, elle chante un peu la femme fatale qui n'a pas percé, celle qui rêve, mais que le réel ramène malgré elle à une réalité moins glamour. Celle qui bosse, les femmes du peuple, qui se languit du prince charmant, mais a appris à faire bouler les relous et qui peine à toucher l'élégance qui lui plaît tant parce qu'elle a à se salir les mains. Au fond, une femme qui rêve d'être une autre femme. Je vous laisse avec cette dernière chanson, on se dit à dans deux semaines, puis ce sera le Canu Info.
Elle voulait jouer cabaret sur un paquebot de contrebande, pas dans un bastring marseillais avec des marins qui lui demandent une chambre d'hôtel sur la mer, histoire de faire le tour du monde, d'être la fiancée du corsaire. Tout en restant une putain blonde qui chanterait blues. Les serveuses, les filles de salle,
pourtant Dieu sait qu'elle s'en foutait d'avoir le cœur et les mains sales. Elle venait d'une grande ville du Nord où on a fermé les usines, là où le soleil vaut de l'or. Elle savait depuis toute gamine leur chanter blues. Les madelons d'infortune, je peux vous dire qu'elle en rêvait d'un jazz band sous un clair de lune, d'un chapeau claque avec des strass comme les vedettes américaines, pas d'un néon sur la terrasse et l'accordéon qui se traîne. Chant